On en jase, ton émission d'actualité, que ce soit locale, provinciale, fédérale, ou voire même internationale, avec ce qui se passe présentement. On vient d'ailleurs de faire un grand tour avec Antonine Iaccarini dans le caucus qui sera disponible sur notre page YouTube. Abonnez-vous à notre page YouTube, vous y retrouvez les caucus, les pit stops également avec Denis Gravel le matin. Et aussi, bien, on en jase, on parle des sujets qui vous touchent. On va parler d'ailleurs avec Mathias Turcotte dans quelques instants, après le bloc nouvelle de Pascal CV, de cet homme, ce père de famille qui, à Lac-Etchemin, décide d'agresser un arbitre après un match lui causant des blessures. Entre-temps, la météo, c'est quelques averses cessant cet après-midi. On est présentement à 5 degrés. Il y aura également ce soir prévu de 5 à 10 mm de pluie. Et pour demain, mardi, le mercure chute à moins 2. Donc, ça va être de la neige intermittente, des vents du sud-ouest de 50 km/h avec rafale à 80 km/h. On va aller jusqu'à moins 7 en après-midi avec un refroidissement éolien de moins 18. Donc, ça va être une journée difficile demain. Prévoyez vos déplacements en conséquence. Pascal, avant qu'on passe à ce sujet qui a fait tant jaser depuis hier lorsqu'on a vu cette vidéo improbable d'un parent qui s'en prend un arbitre de hockey à l'aréna de Lac-Etchemin, dans l'actualité, quels sont les sujets les plus importants?
Oui, bien, c'est sûr que ça, on peut en parler parce que ben, l'homme de 39 ans qui a attaqué les arbitres a été arrêté pour voie de fait et a été libéré sous promesse de comparaître. Alors, c'est sûr que ça, ça complète un peu ce que tu viens d'évoquer. Sinon, énormément de nouvelles. Bruno Marchand qui a qualifié Sylvain Junot d'apôtre de l'inertie. La tension est forte entre le maire de Québec et son homologue, le maire de Saint-Augustin-des-Morts, vu les critiques que Sylvain Junot a émises au sujet du projet de tramway. On ne s'attaque pas au projet de tramway de Bruno Marchand. Hein? Et lui est en déplacement vers l'Alberta. Il a réagi ce matin à la lettre ouverte écrite aux médias par Junot. Bruno Marchand a laissé planer que son homologue essayait de couler le projet de tramway, mais qui n'était pas le premier. Parlant du projet de tramway, Jeff Le Soleil nous apprenait que la Ville de Québec a franchi le cap des 5 millions de $ de dépenses en publicité et en information pour le dit projet.
On va parler de ces deux sujets-là avec Sylvain Junot tout à l'heure aux alentours de 13h05, 13h10. La guerre est officiellement lancée entre Bruno Marchand et le maire de Saint-Augustin-des-Morts.
Bruno Marchand a maintenu sa plainte aussi envers le courtier immobilier Simon Laberge, le maire de Québec, qui affirmait aujourd'hui toujours attendre les excuses du courtier immobilier après la publication la semaine dernière d'une vidéo TikTok dans laquelle il critiquait le projet de tramway en utilisant les termes « malade mental » à l'égard de Bruno Marchand. La garderie de Laval, Pierny-Saint-Amand, est déclarée accusée à haut risque. Celui qui a tué deux enfants en fonçant à toute vitesse dans une garderie en 2023 a été jugé toujours dangereux par le tribunal. Je vous rappelle, il a fait ça avec un autobus. Hein? Il est rentré de plein fouet dans le bâtiment, la garderie. Le verdict a été prononcé ce matin. On a souligné la nature si brutale des gestes de l'accusé qu'il y a une probabilité marquée d'une récidive. En avril 2025, Pierny Saint-Amand avait été jugé non criminellement responsable de ses gestes en raison de troubles mentaux. On qualifiait qu'au moment des gestes, il était en psychose. Ni Saint-Amand est toujours détenu à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel. On va se défendre. Bras de fer entre les spécialistes et Santé Québec. Les médecins spécialistes se disent prêts à défendre le groupe contre la matraque gouvernementale face aux menaces de Santé Québec et aussi infliger des sanctions disciplinaires. C'est le boycott le guichet unique, le CRDS, pour les consultations de tout le monde. Là. Donc, dans le cadre de moyens de pression, les médecins spécialistes ont mis leurs menaces à exécution aujourd'hui. Les Québécois vont devoir se tourner vers le fax, le téléphone, pour prendre des rendez-vous en santé. On revient un peu aux anciennes méthodes. Les spécialistes demandent 14,5% d'augmentation de l'enveloppe globale de 5 milliards de dollars sur 5 ans. Le gouvernement Legault offre 11%. Les négociations sont au point mort.
Dans une dizaine de minutes, on en parle avec notre spécialiste en relations syndicales, Marc Rangé. Si vous l'avez manqué, vendredi dernier, c'est disponible sur le blvd.fm. Pascal Renault, président de la Fédération des médecins omnipraticiens de Québec, est venu nous parler justement de cette bonne nouvelle où il y a une 60 000 de clients vulnérables qui sont pris en charge par des médecins de famille. Il nous explique aussi la différence entre l'urgence et les cliniques. En clinique, tout fonctionne par informatique. En urgence, on fonctionne encore par fax. C'est une entrevue à ne pas manquer à réécouter sur blvd.fm.
Un peu plus de 20 000 membres caquistes vont élire le 12 avril prochain le premier ministre, hein, parce que Christine Fréchette ou Bernard Drainville va succéder à François Legault à la tête de la coalition Avenir Québec, au moins jusqu'aux prochaines élections. Donc, 5 500 nouveaux membres ont adhéré au parti depuis le lancement de la course à la chefferie. Ça porte le nombre à 20 576. Conflit au Moyen-Orient, bientôt vers 2 $ le litre d'essence. Et c'est pas seulement à la station-service que les impacts vont se faire sentir, mais également sur le prix de l'épicerie. Je vous rappelle que depuis les attaques contre l'Iran, le pays a bloqué le détroit d'Ormuz, là où passe 20 % de l'approvisionnement de pétrole au monde. Et qu'au Québec, c'est 25 % du pétrole qui est importé de l'extérieur du Canada. Aujourd'hui, les États-Unis autoriseraient à nouveau les pétroliers iraniens à transiter par le détroit. Mais c'est un peu tout le monde qui est sur ses gardes, là.
Mathias Turcotte est avec nous en studio pour nous parler de cet événement très dommage qui s'est produit à l'aréna de la Ketchum alors qu'un parent agressait un arbitre à la fin du match. Un auditeur nous écrit justement de l'extrême lâcheté d'un parent d'attaquer un arbitre de surcroît par l'arrière quand il a ses patins. Wow! En effet, c'est un geste totalement disgracieux. Mathias Turcotte, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Mathias, tu as parlé avec un de mes politiciens préférés, Enrico Ciccone, ancien dur à cuire de la Ligue nationale de hockey. Il est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie. C'est très personnel ce que je vais dire, mais pour moi, c'est lui le vrai ministre des sports. C'est lui qui fait changer les choses comparativement à Isabelle Charest. T'as parlé évidemment de cette situation-là qui s'est produite à la Ketchum.
Ben oui, forcément, parce qu'on va s'entendre, c'est inacceptable là, des situations de même. Puis on a l'impression que c'est de plus en plus présent des parents qui critiquent les arbitres, qui insultent les arbitres. Puis maintenant, des parents qui agressent les arbitres, puis on va se dire, c'est inquiétant, parce que des arbitres, c'est pas ça qui court les rues en ce moment. Là.
Vraiment, moi, pas plus tard que v'là 2 semaines avec ma gang de parents que j'adore du côté des Bucks de Charlebourg, il y a eu un petit débordement quand même d'émotion dans le match et je suis parti d'en arrière du banc pour aller devant les estrades et demander à mes parents d'adopter un bon comportement parce que c'est important de conserver nos arbitres si on veut que nos enfants jouent. Et en même temps, excellent règlement d'Hockey Québec qui certifie que si les parents ne se calment pas, t'as 2 minutes à ton équipe. Donc, prends ta pédale douce. Prends ton gaz égal, comme on dirait, en tant que parent.
Respire un peu, c'est même pas toi qui es sur la patinoire. C'est ça quand même. Là. T'as vraiment bien fait. Puis justement, M. Ciccone, il a tenu à parler d'un point en particulier parce que pour lui, la grosse sentence que cet homme-là va recevoir, c'est pas nécessairement on va voir les accusations et ce qui va en découler, mais c'est pas nécessairement tout ce processus-là. La grosse sentence, c'est le jugement, le regard que son jeune sur la patinoire lui portait à ce moment-là.
La plus grande sentence, la plus grosse sentence que ce parent-là va avoir, c'est le regard de son enfant. Tu sais, je veux dire, il fait honte à son enfant quand il fait des choses comme ça. Il fait honte à notre sport également. Puis à un moment donné, c'est sûr que je rentrais pas plus laissé judiciariser, là, le parent était arrêté sur la sentence, mais au niveau là, humain, là, la plus grande sentence, c'est le regard de tes enfants quand tu fais quelque chose comme ça. Puis moi, je peux pas concevoir que les parents, encore aujourd'hui, s'y prêtent là, à des gestes comme ça tout à fait inacceptables.
En effet, c'est impossible de penser qu'un parent peut en venir à de la violence physique envers un officiel. Oui, la plus grande sentence va être le regard de jeunes, surtout à cet âge-là, c'est des jeunes de 18 à 22 ans. Toi, Matt, il n'y a pas longtemps, tu jouais au hockey sur glace, justement. Si ton père ou ta mère pétait un plomb dans les estrades, tu devais les remettre à jour.
Ben, de un, c'est gênant. De deux, ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Je veux dire, des joueurs de hockey sur la patinoire, il n'y a rien de plus dérangeant puis de fâchant d'entendre des parents crier dans les estrades. Puis je pense honnêtement, quand j'étais joueur, que ce soit des parents qui insultaient l'arbitre ou que ce soit des parents qui insultent les joueurs, là, parce que des fois, t'entends ça aussi, des parents qui crient après des joueurs sur la patinoire parce qu'ils n'ont pas pris la bonne décision, c'est dérangeant, puis c'est tannant en maudit quand t'es sur la patinoire en train de jouer puis de te donner.
Vraiment. La grande question, Mathias, à se poser avec ce parent-là, c'est est-ce qu'il doit remettre les pieds dans un aréna? Moi, pour moi, ça prend une suspension à tout le moins pour une année, le temps qu'il tempère bien. Qu'est-ce qu'Enrico Ciccone en pense?
Je vous laisse entendre. Il n'a pas voulu trop se tremper, mais visiblement, il a un peu son idée à propos de ça.
Ben, je dis, écoutez, moi, je pourrais, comme je vous dis, il faut que je fasse très attention, parce que vous savez que le judiciaire est complètement indépendant du législateur, là. Je voudrais pas non plus influencer. Moi, je sais ce que je donnerais si j'étais juge. Je vais le garder pour moi. Mais bon, tu sais, c'est sûr que c'est une possibilité. Puis ça va voir, ça va être au juge de décider. Mais on l'a déjà vu dans le passé, là. Tu sais, il y a des parents, il y a des joueurs de hockey qui ont été bannis à vie aussi. Puis il va y avoir peut-être même des sanctions au niveau de la Ligue aussi.
Il va faire une bonne vieille vidéo aussi sur la sensibilisation aux gens, parler de son vécu, pourquoi faut pas s'en prendre aux officiels, pourquoi faut être justement bon joueur. Enrico, tu connais, parle d'une sentence à vie. Je suis pas en désaccord non plus, je vais t'avouer.
Oui, puis pour vrai, là, je veux dire, c'est le genre de geste qu'on veut pas voir. Des parents qui se battent ensemble dans les estrades, j'en ai déjà vu. Là, ceux qui vont au match de Junior 2A, qui s'appelle maintenant Junior B, mais je veux dire, on en voit là, durant des séries, ça s'emporte dans les estrades, ça commence à se battre. Ça, c'est tel que tel, parce que c'est deux parents qui savent pas se contrôler, qui se tapent l'un sur l'autre. Là, l'arbitre, il n'a rien demandé, lui. Puis déjà là, c'est pas acceptable, ça.
Exactement.
Mais là, avec le parent qui va s'attaquer à l'arbitre, là on va chercher une coche de plus.
On franchit une ligne qu'il ne faut pas franchir.
C'est des gestes qu'on ne veut pas voir. Fait que c'est sûr et certain que ce parent-là qui a pété les câbles, va falloir qu'il y ait des punitions, va falloir qu'il y ait une sentence adéquate pour éviter que ce genre de geste-là se reproduisent.
Mathias Austre, gros dossier concernant le hockey, c'était dans les journaux de Québécois cette fin de semaine, des agents de joueurs qui recrutent des jeunes de 10 à 12 ans. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Voyons donc, les kids peuvent-tu s'amuser, s'il vous plaît? »
Ben c'est ça, il y a un malaise, hein, parce que faut... Non, mais...
Non, mais là, c'est un kid, là, il joue au hockey pour le fun, là. Il peut-tu pas penser qu'il va faire la Ligue nationale puis se mettre de la pression, s'il vous plaît?
Tu sais, tu l'as dit... Avant tout, le hockey, quand t'es jeune, puis même quand t'es vieux, pour moi,
c'est
faut que ça reste
jeu.
Ça. Faut que tu t'amuses en le faisant.
C'est-tu ce que je fais en tant que coach? Les gars sortent de la chambre, sont midget, ils ont de 16 à 18 ans. Je tape sur le gant de chaque joueur, puis je lui dis « Amuse-toi, c'est un jeu. »
C'est ça. Ça paraît con, là, parce qu'on sait tous que c'est important de gagner, puis on veut tous gagner quand même. Quand tu joues un sport de haut niveau compétitif, tu veux gagner. Mais il ne faut jamais oublier que c'est un jeu avant tout, puis que le but, c'est d'avoir du fun. C'est pour ça qu'on joue au hockey avant tout. Puis là, de voir des jeunes se faire approcher par des agents de joueurs, de un, la pression que ça met sur le jeune, les attentes du parent qui sont probablement sur ce jeune-là pour que le jeune performe, c'est sûr qu'il y a un certain malaise autour de ça. J'en ai parlé à Enrico Ciccone, puis c'est intéressant parce qu'il a déjà travaillé avec un agent de joueur qu'il me disait par le passé. Puis à l'époque, c'était déjà des jeunes de 14-15 ans qui se faisaient approcher. Puis il m'a dit, à l'époque aussi, je ressentais un malaise. Mais nous, on ne faisait jamais signer de contrat parce qu'il a tenu à me le rappeler avant tout. C'est un contrat avec l'enfant, mais c'est quand même le parent qui signe ce contrat-là.
Mais en même temps, là, au niveau légal, là, le joueur, lui, c'est pas le joueur qui signe le contrat, là, c'est les parents, puisqu'ils sont les tuteurs de l'enfant. Mais rendu à 18 ans, là, si le jeune ne veut plus avoir cet agent-là, tu sais, je veux dire, il va falloir re-signer un autre contrat. Fait que, tu sais, à la fois, ça donne quoi de signer ce genre de contrat-là? Moi, j'ai toujours pensé que si tu veux bâtir une relation, bâtir une relation, je veux dire, avec des joueurs, mais en même temps, faire signer des contrats, ce genre de choses-là, puis 12 ans. Tu sais, je veux dire, tous ceux qui connaissent le hockey un petit peu, là, c'est très bien qu'à 12 ans, là, tu as des joueurs étoiles partout.
Il frappe un bon point. C'est à sensibiliser les parents avant tout de dire aux agents de joueurs, hey, approche-toi pas de mon kid, là, il y a 12 ans.
Mais je trouve ça intéressant que tu me parles de sensibilisation de parents parce que par la suite, je lui ai posé la question comment on peut contrôler ça. Puis de son côté, c'est ça qu'on m'a dit, légiférer sur ces choses-là, ben c'est pas nécessairement évident.
Légiférer en ce sens-là, ça pourrait être très difficile selon moi, là. Parce que les parents, c'est sûr et certain qu'il y a une limite. Là. On ne veut pas rentrer dans la chambre à coucher et dans la maison des familles. On ne veut pas dire aux parents comment élever leurs enfants. Il y a comme une limite, mais en même temps, on peut les sensibiliser.
Oui, c'est ça, parce que créer une loi pour ça, là, tu mets la barre où? Tu mets la limite où? 16 ans, 18 ans quand il va être adulte, mais on sait très bien que rendu à 16 ans, quand tu as un potentiel de jouer dans le midget élite, bien là, après ça, c'est le junior majeur qui t'attend, puis tranquillement, tu gravis les gestions. Maintenant, avec les niveaux scolaires, il y a beaucoup de gens qui vont être bantam élite aussi, qui savent qu'ils vont s'en aller midget élite. Fait que je pense que c'est vraiment une responsabilité de parents, puis c'est aux parents d'être assez intelligents pour dire « Hey, gars, mon kid est trop jeune. » Ou, écoute, t'as bien beau croire en mon kid, moi, j'y crois pas. On va le laisser s'amuser. Ça se peut, ça aussi, là.
Oui, puis ce serait bien correct. Parce que c'est légiféré, je veux dire, tu regardes du côté des acteurs, par exemple. Il y en a des contrats qui sont signés avec les parents pour des jeunes acteurs. Donc, tu t'embarques dans de quoi qui est vraiment compliqué, puis pourquoi tu le ferais dans un milieu, mais pas dans un autre, par exemple. C'est un peu ça l'exemple qu'il me donnait. Fait que je pense que de la sensibilisation aux parents, là, parce que 10 ans, c'est jeune en maudit. Mm-hmm. Laissons le jeune se développer, laissons le jeune s'amuser. Puis pour des contrats, pour le reste de sa carrière, on verra quand il sera un peu plus vieux.
Exactement. Mathias Turcotte, merci infiniment pour ce très bon dossier. Encore une très, très, très belle job. Et en passant, ça réagit par texto des gens qui disent « Ouais, moi, je donnerais une petite suspension aux parents pour la fin de l'année. Je crois en la rédemption. » Notre auditeur qui nous dit « Hey, moi, savez-vous quoi? J'ai pas joué au hockey parce que mes deux frères plus vieux jouent au hockey puis j'entendais juste mon père hurler dans les estrades puis ça me tentait pas. » Hey, sous de valeur, le gars peut-être passé à côté d'une passion.
Ça en dit long, ça.
Ah, ça en dit très long. Merci beaucoup, Mathias Turcotte. Ça fait...
À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. Jusqu'à